Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission, 2h en très bonne compagnie comme d'habitude. En votre compagnie pendant 2h, restez bien avec nous. De 18h à 20h, c'est Roten sans flamme en plein milieu de semaine. Et on est à 2 jours de l'euro, donc beaucoup d'excitation. Et oui, on va en parler de cet euro avec Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah Jean-Louis.
En pleine forme.
Oui, en pleine forme, comme Christophe Dugarry j'imagine. Salut Christophe.
Salut les copains, comment ça va?
Écoute, on est bien.
Ça s'approche à l'euro, ça chauffe là.
Ah ouais, oh là, toi aussi, tu vas être au travail là.
Exactement,
tu vas avoir du
vélo. Hein. Qu'est-ce qui va te faire? Il y a quand même un truc que je ressens, tu vois, de me dire ces poules, je les attends avec impatience. Et de me dire que sur 4 équipes, il y en a pratiquement 3 qui sont qualifiées sur 4.
Ah, il y a du suspense.
Ça,
ouais,
voilà,
suspense.
Ça va, ça va commencer sans suspense. Ouais, les 3 premiers matchs, ils servent à rien. Déjà.
Puis tu vas revoir Dédé. Écoute, si tu arrives à le comprendre quand il te parle, tant mieux. Nous, on a du mal en tout cas, de plus en plus. Louisa Nessim avec nous. Salut Louisa.
Salut à tous.
Salut Louisa.
Ça va, merci.
Bon, écoute.
Et donc ce soir, Roten sans flamme autour de l'euro, début de la compétition. Dans 2 jours, les Bleus sont arrivés en Allemagne aujourd'hui. Mais alors, cette compétition a-t-elle toujours autant la même saveur pour vous? L'UEFA, l'organisateur, sera l'accusé du soir, accusé d'avoir tué cette compétition.
Ah bon?
En l'ouvrant à trop d'équipes. Vous avez compris,
si vous
avez été attentif, qui allait être le procureur. À 19h, on va replonger dans un euro mythique, comme on le fait depuis le début de la semaine.
Ah, celui-là, il est beau.
Ça s'appelle un euro symbolique. Voilà la musique, bien sûr, qui va avec. L'euro symbolique ce soir de Christophe Dugarry, c'est l'euro 2000. Dénouement incroyable.
Bah, Louisa, tu devais être amoureuse de Dugas, les cheveux longs,
Elle était pas née, laisse-la la pauvre.
Ah si, t'étais née Louisa.
Si, j'étais, oui bien sûr.
Il n'y a pas que Zizou dans le cœur de Louisa.
Louisa, il devait y avoir quelques copines amoureuses de Zizou, de Dugas quand même.
Pour être très honnête, je démarrais à peine le football à la télévision.
Ouais.
Donc je découvrais un peu tout.
Ah, d'accord,
Bah disons, bon. Il y avait de bonnes choses alors. Il y avait des émotions sur cet Euro 2000. On y reviendra en détail. Sans doute la compète.
Du gars en sang, du gars avec les écarteurs de narines, c'était fantastique.
Non, pas là.
Ah non,
pas l'Euro 2000 quand même.
Si, c'est fait casser le nez.
C'était pas le truc pour respirer mieux à l'Euro 2000 plutôt. Il y avait ça là, sur le torse.
Ah, le Vix.
Ouais, le Vix.
Bah, le Vix, c'est pas de Vira.
C'est les Anglais qui mettaient ça, les mecs qui jouent en Angleterre.
Ah ouais, mais pas de Vira, il avait pas compris qu'il fallait en mettre un peu, lui, il mettait le pot.
Rendez-vous tout à l'heure, 19h pour l'Euro 2000. À 18h45, nouvelle remise des Casards d'or dans le Casard enchaîné avec Julien Casard. Et puis l'expérience RMC se poursuit. On vous envoie désormais, depuis hier, à France-Pays-Bas. C'est le 21 juin prochain à Leipzig. On vous offre le voyage, l'hôtel, les 2 places pour le match et la rencontre avec les équipes RMC. Pour avoir une chance d'avoir ce cadeau, il faut être attentif au signal sonore. Le coq, dès que vous l'entendez, le Roten sans flamme, il peut arriver à n'importe quel moment. Vous envoyez Euro au 732-16. Tout de suite, alerte, c'est la crise.
Je suis nul.
L'opérateur Canal Plus ne s'est vu attributaire d'aucun lot.
C'est une évolution qui est significative, qui va permettre de mieux payer les joueurs.
Tu peux uniquement être nul assez fréquemment et j'en faisais une généralité.
Des clubs qui sont de plus en plus spectaculaires pour le spectacle que l'on diffuse.
On doit être en capacité de retrouver une compétitivité accrue sur la scène européenne.
J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football.
Tu te mens à toi-même. Peut-être que tu ne veux pas le voir.
J'ai plus rien.
Je
suis ruiné.
On l'embrasse, Daniel Balavoine.
Allez,
intimité karaoké. Ah, mais c'est dur, Daniel Balavoine, très très dur.
Ah, il faut une voix au perché.
Ah, ouais, bah, oui. Il faut savoir. J'ai des limites là-dessus.
Parce qu'à 2h du matin,
c'est pas Johnny.
Tu penses que t'as des limites?
Johnny et Patrick Bruel, ça va, mais ouais, à 2h du matin.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de limite, non. Peu importe la voix,
ouais,
on chante.
Je sais pas.
Non, t'es pas de.
Non, je suis pas.
De toute façon, il rentre pas, Jérôme, avec cette coupe de cheveux en boîte de nuit, mais t'es sérieux ou quoi?
Non, pas en boîte de nuit, au karaoké.
Ouais. Ah oui, ouais, c'est ça. Même pas, je suis pas sûr qu'il rentre au karaoké.
Tu savais, du gars, boîte de nuit, ça fait un bout de temps que je suis pas sorti. C'est fini, ça.
Ça m'étonne pas d'ailleurs, t'es peu à la page.
Bah oui, bah. Bon, ça me dérange pas.
Tu dis ça, du gars, parce que Jérôme s'est refait sa coupe de jeu. Vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux.
Ah bon Rotten sans flamme. Ah ben merci aux auditeurs parce que vraiment ils en pouvaient plus. Voilà, tous les messages qu'ils envoyaient, c'était au bout du rouleau les pauvres.
Allez, c'est pas grave. Allez, vas-y, allez, parle du foot là.
Bon, ben, on va pas vraiment parler de foot hein, parce que c'est toujours la crise autour du foot français. Ouais. Hier, on vous en parlait déjà. Toujours pas d'accord trouvé pour les droits télé. Des présidents qui ne peuvent pas recruter, comme l'a expliqué Laurent Nicolin à Montpellier. On parle d'une enveloppe espérée de 500 millions d'euros désormais avant d'enlever la fameuse part CVC. Ça fait
13%,
donc,
c'est ça?
Bah 20% la première année et après 13%.
Ah,
donc,
et 20%, oui.
On part plus sur 350-400 millions dans les caisses des clubs au mieux. Hein. Après, il y aura peut-être les droits internationaux également à côté, mais bon, ça fait quand même maigre. Est-ce qu'à votre avis, c'est une catastrophe totale pour notre Ligue 1? Est-ce qu'on va avoir un sous-championnat désormais? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme.
La catastrophe. On est quand même mal barré. Alors, il n'y a pas que l'argent, on est d'accord. Et peut-être que des clubs, par la force des choses, ils vont se remettre à travailler correctement et à pas s'enflammer et à reprendre les bases. Parce que certains clubs ont oublié ces bases-là. Les présidents se sont bien enflammés sur les dernières années. Et là, la dure réalité, c'est celle-là. Jean-Louis, tu t'imagines, toi, 350 millions pour les clubs. Il y a 18 clubs. Le partage, je ne sais pas exactement comment il se fait. Mais il reste pas grand chose quoi. Juste pour des droits télé qui sont pour la plupart le financement de leur budget sur l'année, tu vois, 70% pour certains clubs. Donc t'imagines la claque pour les dirigeants, pour les présidents, mais la claque pour les joueurs, parce qu'il y en a aussi qui vont redescendre un petit peu sur terre, qui sont aujourd'hui, alors on leur a donné les contrats, ils ont braqué personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs moyens, très moyens, qui sont surpayés, qui sont trop payés. Donc là, eux aussi, il va falloir qu'en termes de contrat, ils apprennent à gagner moins, en faisant plus d'efforts, certainement pour retrouver de la compétitivité. Parce que quand tu as moins d'argent, forcément, tu vas t'affaiblir en termes de nom et d'expérience sur le terrain. Que tes jeunes qui vont montrer, déjà que ça se passe dans la plupart des clubs, mais qui vont être très bons très vite, ils vont se barrer parce que de toute façon, tu n'auras aucun moyen de les garder. Et ceux qui sont, comme je te disais, Jean-Louis, des joueurs moyens et qui, eux, vont rester dans notre championnat, il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec moins. C'est tout, c'est comme ça. Et retrouver peut-être, au fond, c'est peut-être un mal pour un bien, retrouver un peu plus de passion, que certains ne le voient pas comme juste un métier, le football, d'être footballeur professionnel, mais d'être un métier avec une chance inouïe de se dire que tu fais une passion, ton métier, t'en fais une passion. Et donc ça, c'est quand même incroyable que certains aient oublié, et par la force des choses, ils vont être obligés. Mais pour répondre plus clairement, et je donne la parole à Christophe et à Louisa, je pars du principe que oui, dans un premier temps, on va être un sous-championnat et qu'on va être dans la mouise.
Est-ce qu'on sera capable de se réinventer derrière? C'est ça la question.
Ça va mettre du temps.
C'est le sujet. Après, bien évidemment que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les clubs parce que il y avait un prévisionnel qui était fait. Il y a des gens qui sont rentrés dans le foot pour ses droits télé parce qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Et il va y avoir beaucoup de déçus, forcément. Après, il y a eu des promesses qui ont été faites aussi. Le président Labrune qui a été élu aussi pour ça, qui avait un objectif. L'objectif n'est pas atteint. Donc, ça prouve une nouvelle fois que les présidents de clubs travaillent mal depuis des années, que ça travaille mal à la Ligue, et il va falloir se réinventer, il va falloir trouver des solutions. Comment, je n'en sais rien, peut-être miser encore un petit peu plus sur nos centres de formation, trouver une législation qui permettra de garder nos jeunes un petit peu plus tôt pour pouvoir les vendre encore mieux. Après, dire qu'on serait un sous-championnat, mon Jean-Louis, qu'est-ce que ça veut dire un sous-championnat? Moi, je parle toujours d'émotion, je parle d'histoire et d'émotion avec le foot. Voilà, t'es un club, t'écris ton histoire et tu vis des émotions. Je ne suis pas persuadé que les Hollandais se prennent pour un sous-championnat. Je ne suis pas persuadé que les Portugais se prennent pour un sous-championnat. Je ne suis pas persuadé que les Belges se prennent pour un sous-championnat. Ils arrivent à vivre des émotions, ils arrivent à vivre des moments extraordinaires avec leur club. Ça existe. Moi, ce que fait Riron, par exemple, en Espagne, d'autres sont capables de faire dans d'autres championnats. Je ne suis pas persuadé qu'en Grèce ou en Turquie, ils se considèrent comme un sous-championnat et qu'ils ne vivent pas tous les week-ends les supporters des émotions. Donc non, je pense qu'il faut savoir payer les choses à leur juste prix. Ça fait des années que le football français ne rentabilise pas tous les investissements des chaînes télé qui ont été faits. Il y a eu des investissements qui ont été énormes depuis des années et des années. Parce qu'on parle des droits télé, mais il faut penser à la production. La production, c'est le double. C'est-à-dire quand tu payes 600 ou 700 millions d'euros des des droits par an, t'en as pour autant de production avec tous les caméramans, avec tous les cars régie, avec toutes les installations qu'il faut faire lorsque tu vas retransmettre un match. Donc c'est clair que ce n'est pas rentable. Aujourd'hui, la Ligue 1 n'est pas rentable pour un investisseur, pour une chaîne télé. Donc il faut se poser les bonnes questions. Même avec des joueurs comme Neymar, même avec des joueurs comme Messi, ouais, même avec rentable. Des joueurs comme Mbappé, ouais. Tu te rends compte, c'est pas rentable. Ce n'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut se mettre autour d'une table, il faut réfléchir, il faut un salary cap, quitte à perdre peut-être tes meilleurs joueurs, tu les perds.
Oui,
tu les perds déjà.
Non,
il faut raisonner, il faut réinventer notre football. Voilà, comment les choses vont se passer à l'avenir. Mais maintenant, c'est sûr que la pilule va être très difficile à avaler. Et il y en a qui vont rester sur le carreau, parce que ça va choquer. Aujourd'hui, il y a des contrats qui sont en place pour les joueurs, pour y a des transferts à payer, parce qu'il y a des clubs qui paient des transferts sur plusieurs tranches. Voilà, sur plusieurs années. Donc, il va y en avoir qui vont rester sur les carreaux.
De toute façon, Nicolas l'a dit, hein.
Voilà, est-ce que c'est mal? Au bout d'un moment, ils ont trop mal travaillé pendant des années.
Moi, je
m'évertue à le dire. Au bout d'un moment, quand tu finis par mal travailler, puis tu tombes dans le précipice.
Ouais, et puis du gars, tu sais, il y a une chose. Moi, je constate. On a fait le débat il y a trois semaines, même un mois, par rapport aux adieux de Kylian Mbappé. Je trouve que la plupart, ils sont encore plus dans une bulle aujourd'hui. Ils sont inaccessibles. Il y a plus de cette relation avec le public, avec tes passionnés. Ils sont vraiment coupés du monde à cause des dirigeants, à cause des gens qui travaillent aussi autour des clubs, dans la communication, dans le marketing.
Regarde Jérôme, un truc tout simple. Regarde la Première Ligue, par exemple. La Première Ligue, le nombre de reportages qui se passent de joueurs. C'est-à-dire que les droits télé, la Première Ligue, fait des reportages les stars du championnat et les revend aux chaînes ou sans les vendre, ou ça fait partie du package quand le Sky paye 2 milliards. Alors on ne sera jamais jusque-là.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, avoir un accord entre les clubs et le diffuseur, et puis qu'il se passe quelque chose de collégial.
Il y a trop
de guéguerres en interne, il y a trop de déclarations, ça se passe trop mal, sincèrement.
Quand tu vois
qu'il y en a qui, pour travailler ensemble, il faut quand même bien s'entendre, un minimum. Et puis tu l'as dit, Jérôme, les joueurs surpayés qui n'apportent pas le moindre résultat, notamment en Coupe d'Europe, ça suffit. Il y a trop de joueurs surpayés. S'ils veulent gagner de l'argent et que l'argent est leur priorité, qu'ils partent en Arabie Saoudite, qu'ils partent à l'étranger, et puis on n'en a rien à faire, on ne veut pas les voir, ces mecs-là, on n'en a rien à faire. Voilà.
Louisa, est-ce que tu penses que derrière cette crise, il peut y avoir justement une nouvelle dynamique, des clubs capables de se réinventer, un horizon peut-être un peu plus radieux, une fois la crise passée ?
Ben oui, il faudrait changer de stratégie du côté des clubs. Après, c'est vrai que le foot français est au bord du précipice aujourd'hui en termes de droits TV. On se demande qui va sauver le foot français. Donc on en est là aujourd'hui et la situation, c'est celle-là. Et les droits télé sont si importants parce que c'est plus de la moitié d'un budget d'un club.
Eh oui.
Donc c'est une situation quand même inédite. Comment tu prépares le budget de ton club quand tu ne sais pas ce que tu vas toucher en droits télé? Donc c'est vrai que c'est très compliqué.
Ça montre bien qu'il y a un problème de modèle et peut-être que les clubs vont se réinventer derrière.
Ben il faudrait, mais j'ai l'impression qu'ils attendent après ces droits télé. Il y a rien qui bouge. Donc après ils ont été aussi trop gourmands. La Ligue à l'époque, Canal proposait 800 millions, ça a été refusé parce qu'ils attendaient le milliard. Aujourd'hui on parle d'un budget autour de 500 millions. Donc déjà.
Et encore.
Ouais, peut-être 350, 400. Donc à un moment donné, le travail a mal été fait aussi au niveau de la Ligue. Après, pour que cela se fonctionne bien, Dugal a dit, il faut aussi qu'ils soient alliés les uns avec les autres. Ça marche bien avec le rugby et Canal. Pourquoi? Parce qu'ils marchent ensemble. Donc si déjà il y a des tensions en interne, ça ne peut pas fonctionner. Et aussi, ce qui est vrai aussi, c'est que le produit Ligue 1 n'est plus un produit haut de gamme aujourd'hui. La Ligue 1 a perdu de son attractivité. Quand on voit le PSG qui survole le championnat, ce sont ces vedettes qui lui ont permis aussi de survoler ce championnat depuis des années. Aujourd'hui, on les a plus, les vedettes. On a Mbappé qui part.
Et puis, en plus, il y a une chose, et moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais du gars aussi, c'est par rapport à l'étranger. Ce qui se passe, par exemple, en Angleterre. Alors, l'Angleterre, c'est le top du top, on est d'accord, en termes de droits télé, en termes de visionnage des matchs, c'est vrai que c'est révolutionnaire par rapport à nous, hein. Il faut être très clair. Maintenant, eux, ils ont réussi à se réinventer, à vendre des choses, à amener le supporter de base, le passionné de football, à découvrir des choses, à découvrir des joueurs, à découvrir l'envers du décor. Nous, t'as l'impression que tout est fermé à double tour. Les clubs, la plupart, avec le diffuseur, là, on regarde, cette année, c'était Amazon. Est-ce que vous avez vu des reportages chez Amazon qui vous ont marqué de joueurs? Non, rien. C'est fermé à double tour.
Plus quand même. On a vu quelques interviews chez eux qu'on n'avait pas nous, par exemple.
Oui, mais oui, parce que des interviews, d'accord. Oui, d'accord. Mais bon, c'était
un peu plus qu'ailleurs.
C'est pas non plus. On va pas se mettre en quatre pour regarder ce genre d'interview. Et puis l'autre chose, c'est aussi les clubs dans la façon de travailler. Moi, je veux bien, mais quand tu veux vendre un produit, en effet, en termes de spectacle, en termes de niveau, on a été inférieur cette année, encore plus que les autres années. C'est la réalité. Sauf que quand tu ouvres et que tu donnes une autre image, tu vois, mais différente, que les clubs arrêtent de réagir en disant « Oh non, non, mais là, on a un match important, non, on ferme là, tout, on ne parle pas. »
L'expérience, c'est que nous, on n'a pas notre Sunderland, comme il y a eu sur Netflix,
oui,
et même, on n'a pas Manchester City, mais Arsenal, mais qui ont ouvert leur vestiaire pendant des saisons entières aux caméras. Nous, on n'a même pas ça sur une journée d'un match.
Jean-Louis, je ne fais pas référence et je ne donne pas des leçons, parce que nous, en 2004, avec Monaco, on a donné cette image-là.
C'est vrai, l'épopée rouge.
Mais oui, le périple rouge. Mais un document comme ça, comme les yeux dans les bleus en 98. Mais je te dis que c'est impossible de mettre ça en place. Impossible.
Mais Jérôme, je vais te dire un truc pire que ça, Jérôme. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à Canal. Et il y a des émissions qui ont été inventées par Canal. C'est-à-dire le Canal Football Club, à l'époque, rappelle-toi l'émission Les Spécialistes. Ça a été inventé par Canal. Mm-hmm. Il s'est avéré qu'une fois que ces émissions ont été inventées par Canal, eh bien, la Ligue les a mis dans les droits. C'est-à-dire qu'ils vendaient ces émissions. Voilà, ouais. Ils disaient, ils leur vendaient des droits pour le dimanche soir, des droits pour le lundi soir. Oui. Ils inventaient au fur et à mesure que les chaînes inventaient des émissions pour satisfaire le public et puis pour vendre aussi les équipes, et bien eux ils mettaient ça dans les droits et après il fallait payer, donc Canal devait payer des émissions qu'ils avaient eux-mêmes inventées. C'était fou.
T'as raison.
Non,
alors il faut peut-être s'ouvrir, revoir tout le modèle, avoir une réflexion générale.
Ils vont pas avoir le choix.
Voyons ce qu'en pense Geoffrey. Est-ce que la Ligue 1 va devenir un sous-championnat?
Salut Geoffrey.
Salut l'équipe.
Bienvenue. Comment tu vas? Tu nous appelles d'où?
Ouais, d'à côté de Lille, mais supporter du Racing.
D'accord.
Bon, bah, c'est le bon exemple, parce que vous avez performé quand vous aviez pas d'argent, et c'est quand vous avez commencé à en avoir que vous avez fait un peu n'importe quoi l'été dernier.
Bon, après, ils ont un milliardaire radar.
Donc, c'est pas mal de pas avoir d'argent.
Bon. Écoute, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que ça va jouer aussi sur ton envie de te connecter encore à la Ligue 1 ou pas?
Non, ça touchera pas mon côté supporter, hein. Ça c'est clair. Mais néanmoins, je rejoins en fait tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que le problème, c'est un problème de mentalité. On espère.
Aussi, t'as raison, aussi.
Ouais, on se dit que voilà, il y a plus d'argent, donc les clubs vont se réinventer. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je pense que déjà au niveau de la ligue, même de la fédération, personne n'est là pour se réinventer. C'est des personnages qui sont là pour.
Ils sont là depuis toujours en plus, c'est des pompiers pyromanes.
Exactement ça. Et tu prenais l'exemple de la première ligue. Eux, ils ont su se réinventer, mais en plus en ayant plus d'argent. Donc en fait, ils ont fait le bon schéma et nous, j'ai l'impression que nous, on va faire le contraire. Ben, nous, on a plus d'argent et on va continuer à creuser. Quand j'ai lu, c'est le président Nicolas, en plus un club que j'aime bien, Montpellier, qui se plaint comme quoi c'est la faute de Canal. Bah non, s'il n'y a pas de résultat et qu'aujourd'hui on voit des clubs grecs qui arrivent à faire des parcours en Coupe d'Europe, à un moment donné, c'est que ce que les personnes en place font ne fonctionne pas. Donc avec ou sans argent, ce sera pire en fait. Ce sera pire, ça pourra jamais être mieux. Donc la seule espérance qu'on peut avoir, c'est que certains clubs qui arrivent à se dire bah voilà, là on va se mettre à travailler comme il faut, à faire sortir des jeunes et aller regarder un petit peu dans les championnats mineurs pour essayer de trouver des joueurs. Mais quand on parle de championnat mineur, je pense que la France, de toute façon, on est déjà un. En tout cas, on n'est pas partie des gros. Et moi, je pense plutôt qu'on va continuer de creuser, malheureusement.
Oui, ben l'arbre qui cache la forêt, c'est le PSG, bien évidemment.
Oui, mais ça, et tu as raison, Duga, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est aussi problématique. Parce que ça, dans ces dernières années, ça a forcé, si tu veux, je pense, ça a précipité le fait de faire d'autant plus de conneries chez certains clubs, en se disant tiens, on va travailler comme ça, on va faire des one shot, on va prendre la stabilité à Marseille pour essayer peut-être sur une année de concurrencer le Paris Saint-Germain, de les dépasser, pas de construire sur le moyen terme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as t'as cette politique-là, que t'as pris des risques, que t'as surévalué certains joueurs, t'as donné trop d'argent aussi à d'autres, à des joueurs moyens, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui tu te retrouves coincé parce que ces mecs-là, ils sont sous contrat. Soit t'as payé des transferts encore que tu dois rembourser, et quand t'as pas les mêmes rentrées d'argent au niveau des droits télé, ce qui va arriver donc là à partir du mois d'août, si ça arrive, hein, parce que pour l'instant, on sait pas comment on va être mangé. Franchement, il y a plein de clubs qui peut-être vont poser, vont déposer le bilan. J'ai bien peur que ça arrive chez certains. Et puis il y en a un qui est sorti du bois dernièrement encore, Jean-Michel Aulas, qui nous a dit Canal, maintenant Canal. Mais arrête, t'as été le premier à balancer des infos, à critiquer ouvertement Canal+, et maintenant tu dis c'est Canal qui doit nous sauver. Alors arrête, franchement moi je veux plus l'entendre lui, parce que lui à l'arrivée c'est triste de parler comme ça de ce personnage là parce qu'il a tellement marqué le football français. Mais sur les dernières années, il est complètement à l'agonie. Même à Lyon, il a été néfaste. C'est quand même problématique. Et il est encore là à la Fédération Française de Football. Oh là là, franchement, mais là, on est vraiment dans la mouise hein, de ce côté-là.
Non, mais après, est-ce qu'ils sont capables de se réinventer ? Voilà, ça a plutôt.
Ah, ces gens-là, ils sont pas capables. Hein.
C'est ça le problème.
Bah oui, mais franchement, est-ce que tu es rassuré aujourd'hui, rien qu'à la Fédération Française de Football, quand tu vois que ces gens-là, ils donnent leur avis et leur aval sur plein de choses encore, mais ils sont dépassés.
Ils sont prétentieux, ils sont d'une arrogance rare, voilà, ils se prennent pour les bottes. Et à ce qui s'est passé, il y a eu quand même des alertes, il y a eu des grands clubs qui ont coulé, voilà, je pense à Bordeaux bien évidemment, mais il y en a eu d'autres aussi. Ce qui s'est passé avec le Covid, ça aurait dû être une alerte également. Ça fait des années et des années que Canal+ t'explique que c'est pas rentable. Ça a été le cas avec Bein, ça a été le cas avec Orange, ça a été le cas avec Amazon, ça a été le cas. Et ils croient toujours qu'il va y avoir un pimpin qui va débarquer et qui va filer 800 millions d'euros.
Exactement.
800 millions d'euros, c'est
Et elles sont où les bonnes idées de l'UNFP, parce que aussi, hein, le syndicat des joueurs. Qui défend les joueurs. Non, mais je suis désolé. Je peux tomber sur l'NFP? Comment? Eux, c'est eux qui, normalement, sont là pour défendre les joueurs aujourd'hui. Oui. Eux aussi, avec ce qui touche sur les droits télé. Ah, bah là, ils se disent, oh là là, merde. Bon. Ah, mais on va peut-être toucher un petit peu moins de salaire, un petit peu. Tu les as entendus défendre les joueurs?
Non, mais j'ai pas voulu les entendre. Là, c'est pas eux qui sont en première ligne.
Mais je suis désolé parce que, à l'arrivée, les joueurs.
Ils mettent une couche à tout le monde.
Mais non, parce que c'est l'ensemble de la famille du football français.
Oui,
et ils en font partie, ils ont une place forte. C'est le seul syndicat des joueurs, Jean-Louis. Excuse-moi, ils peuvent aussi sortir du bois. Dire, oh, on est inquiet. Il y a certains joueurs qui vont se retrouver. Parce qu'on parle des clubs, mais certains joueurs vont se retrouver en grande difficulté, Jean-Louis. Tu vas voir que là, les stages UNFP là, comme ils font tous les ans, mais ils vont être remplis, hein. Mais à ras-bord, hein. À ras-bord, il y aura pas de la place pour tout le monde. Hein.
Ok, merci Geoffrey d'être venu au 32-16. À très bientôt sur RMC. Dans une seconde, on parle de l'euro. Mais est-ce que cet euro a toujours autant de saveur? Ou est-ce que l'UEFA
on va vibrer.
L'a tué. À tout de suite pour faire
Christophe Duguerre au commentaire, c'est fantastique.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, on est là, on est bien. Il faut rester avec nous jusqu'à 20h. Hein. C'est dans Roten sans flamme, c'est fantastique émission aujourd'hui. Encore une heure et demie avec Christophe Dugarry, avec Louise Anessib et avec Jean-Louis Tour dans 15 minutes. Le moment de Julien Cazard. Oui, vous avez bien entendu, Julien Cazard sera parmi nous pour se détendre. Il faut quand même mesurer la chance qu'on a d'avoir un plateau comme ça, hein, Jean-Louis.
Ah oui, et la chance qu'on a aussi que Dugas nous parle de sa carrière. Parce que c'est rare, hein. Souvent il dit
on parle pas des carrières.
Voilà, j'ai déjà raconté toutes les histoires.
Mais c'est pas que je veux pas, c'est que je m'en souviens pas, c'est tout.
Oui, il y a ça aussi comme problème. Mais t'inquiète pas, j'ai noté plein de trucs.
L'Euro 2000, tu t'en souviens quand même, rassure-moi.
L'Euro 2000, je m'en souviens sur la mémoire.
Voilà.
Ah oui, merci Jean-Louis.
J'espère que t'as les adversaires en tête quand même.
Oui, ça va être pour mettre en valeur, j'imagine, comme d'habitude. Merci beaucoup.
Bah, attends, on est là pour ça quand même. C'est ta plus belle compète du gars.
L'Euro 2000, on peut pas critiquer.
Bah oui,
bien sûr.
Tu l'as bien réussi.
Ah, t'es quand même buteur dans 2 euros et une Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde.
Fois, mon petit but de raccro,
c'est vrai que autant on peut rigoler sur le fait que t'as pas marqué 150 buts
Mais du coup, on les apprécie quand on en voit.
Voilà. C'est ça, ils sont rares. Plus ils sont rares, plus tu les apprécies. Exactement.
Et puis on a noté que c'est quand t'es sorti en finale que ça a été mieux.
Tu mesures pas la chance que t'as eu de jouer une finale de Coupe du Monde et une finale d'Euro. C'est beau.
Si je mesure.
Voilà. Ça, ce sera à 19h. C'est l'euro symbolique de Dugas, l'euro 2000. Ce sera tout à l'heure. Et puis, il y a toujours eu pas.
Moi aussi, j'ai fait une finale de Coupe des Confédérations.
Ah oui?
C'est encore mieux que la Coupe du Monde. C'était plus réduit, c'était plus dur à gagner. Non,
d'accord. Mais t'es rentré, tu l'as joué?
Ouais, j'ai joué. J'ai laissé ma cheville, mais j'ai joué.
Non, faut qu'on aille vérifier. Si
j'ai laissé ma cheville contre le
je
Japon.
Je te crois pas. Je suis sûr que t'étais un remplaçant.
Mais quoi, la finale?
Oui.
Non, tu me parles de la compète. La compète, j'ai joué. J'ai laissé ma cheville, je t'ai dit, contre le Japon.
D'accord. C'était la finale?
Non, c'était le troisième match de poule. Après, on était qualifiés en demi-finale. C'était fantastique.
Ah, c'est d'accord. Donc, t'as joué le match des coiffeurs de la Coupe des Confédérations?
Non, moi. Il faut comprendre. C'était le match de coiffeurs? Non, c'était un match fondateur, je pense, contre le Japon. Bon, vas-y, on s'en fout. Vas-y, allez, parle de.
Bon, non, je voulais quand même dire qu'il n'y a pas eu l'alerte pour l'expérience RMC. Donc, si vous voulez aller en Allemagne, assister à France-Pays-Bas, restez bien à l'écoute. C'est toujours pas tombé. C'est un coq, un moment qui arrive. Vous allez comprendre. Mais on parle de l'euro. Est-il toujours aussi passionnant?
RMC, Rotten sans flamme.
C'est impardonnable, c'était pas le mot. Hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable?
Faites entrer l'accusé.
Après-demain, donc, l'Euro démarre. Et ça va être la troisième édition avec ce format de 24 équipes.
Ah ouais.
Qui passe pas pour
quel
certains.
Vie. Merci
on,
Michel.
On l'a deviné avec Dugas tout à l'heure. Donc, cette phase de poule où la plupart des troisièmes seront qualifiés, ça enlève de la pression à certaines rencontres, bien sûr, mais en même temps, ça permet les belles histoires, les petites nations qui découvrent la compétition, qui peuvent créer des surprises comme l'Islande en 2016.
C'était beau.
Le Danemark demi-finaliste en 2020. Et puis, on a une compétition très ouverte. Alors, l'UEFA est malgré tout accusée d'avoir tué sa compétition internationale. Et l'accusation est portée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de l'UEFA, c'est quelqu'un qui a disputé un euro, donc forcément cette compétition lui tient à cœur. C'est Maître Jérôme Rotten, bonsoir.
Oui, bah alors je vois pas pourquoi.
Bah quoi?
Dugas, il en a joué, il l'a gagné. Et alors?
Ah oui, mais il a oublié, visiblement. La juge Louisa Nessib est là pour trancher. Bonsoir, madame la juge.
Bonsoir.
Très bonne juge.
Allons-y, monsieur le procureur Dugarry, pourquoi l'UEFA fait n'importe quoi avec sa compétition?
Oh, l'UEFA, la FIFA, je pense que ça fait bien longtemps que le seul intérêt, le seul but de ces institutions, c'est de ramener le plus d'argent. Voilà, c'est leur seul et unique intérêt. Toutes les décisions, pour moi, qui ont été prises ces dernières années, n'ont servi qu'à ça. Voilà, à aucun moment on se pose la question de savoir si c'est mieux pour les joueurs, si c'est mieux pour les supporters. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça améliore le niveau des compétitions? Ça n'a jamais été le but et l'intérêt. Voilà, moi j'en ai marre qu'on essaie de toujours de niveler les choses par le bas. Voilà, une phase finale, c'est une phase finale. Moi j'ai envie de voir les meilleures équipes. J'ai pas envie, par exemple, sur ce championnat d'Europe, de voir des premiers matchs qui servent à rien. Les phases finales, c'est les phases finales. Voilà, moi je suis nostalgique de des Coupes du Monde en 82. Ou en 86, où tu avais 24 équipes, c'était les 24 meilleures. Et là, tu savais que chaque match, c'était au couteau, que chaque match, les joueurs devaient être prêts. Il n'y avait pas de match de préparation, il n'y avait pas de match. Voilà, parce que la semaine dernière, c'était encore pire. Eric Dimeco nous expliquait que les premiers matchs au championnat d'Europe seront des matchs de préparation. Ouais. Donc, c'est dire la mentalité que tout le monde a pour cette nouvelle compétition décidée et organisée par les instances. Voilà, les instances, une nouvelle fois, on est dans le même paradigme, la même logique, c'est d'avoir le plus d'argent. Et il n'y a que ça qui intéresse les clubs, les fédérations, les institutions. Voilà, c'est jamais pour le bien du sport, c'est jamais pour le bien des joueurs, c'est jamais pour le bien des supporters. C'est tout simplement abominable, c'est tout simplement pénible. Moi, j'en ai marre de voir ces compétitions. Alors, je les regarde parce que le foot, c'est ma vie, parce que j'aimerais ça toute ma vie, et puis que voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Mais malheureusement, je vibre de moins en moins. Je trouve que le football des nations perdu en qualité, et je pense que c'est celui qui est devenu presque le plus faible. Il y a de plus en plus de matchs qui sont inintéressants et qu'on n'a pas envie de regarder, où les clubs se permettent, où les pays se permettent, les sélections se permettent de calculer. Forcément, quand sur quatre équipes, t'en as trois pratiquement qui sont qualifiées, comment tu veux apporter un peu d'exigence? Comment tu veux ne pas calculer? Comment tu veux ne pas préparer? Enfin, voilà, je trouve ça dommageable et j'ai pas compris ces nouvelles formules. Qu'est-ce qu'elles apportent en plus, si ce n'est de l'argent? Tu me parles, mon Jean-Louis, de bonnes histoires pour des petits pays. Je suis pas persuadé que amener ces petits pays-là à écrire un bout d'histoire dans des championnats d'Europe comme ça serve véritablement à quelque chose et serve au football en général.
Allons-y, Maître Rotten, défense.
Pour rebondir déjà sur la fin de Maître Dugarry, je vous renvoie aux images de la Géorgie avec Willy Sagnol. Fabuleux. Votre ami, vous avez craché sur lui là, ça vous dérange pas? Mais moi j'ai été très heureux de le voir. Le vent frais de voir la Géorgie qualifiée.
Bravo Willy d'ailleurs.
Ah, franchement, tout le pays a été mobilisé. Ils sont très heureux et ils vont découvrir l'euro. Mmh. Et c'est vrai qu'avec ce format-là, ça permet de découvrir nous ce genre d'équipe qu'on n'aurait pas découvert il y a quelques années. Moi, c'est la troisième édition.
Ça m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse pas.
Oui, mais toi, parce que tu vois un foot de riche, un foot d'élite. Mais moi,
je veux un foot d'élite. Oui, je pense que les phases finales servent à ça.
Oui.
C'est une phase finale de championnat d'Europe ou une phase finale de
Coupe du Monde. Oui, mais après
c'est pas l'école des fans. Ou alors,
chaque chose en son temps. Je pense qu'on découvre sur les matchs de poule des équipes. Jean-Louis, tu le disais, en 2016, on a découvert l'Islande. Non, mais franchement, c'était fabuleux pour ce pays.
Tu penses sincèrement que la Coupe des Confédérations, la Ligue Europa, enfin surtout la Coupe des Confédérations, tu penses que ce truc, pas la Coupe des Confédérations,
la Conférence League.
La Conférence League. Tu penses que sincèrement ça sert à quelque chose?
Non,
une nouvelle fois, il y a plein de compétitions comme ça qui sont venues se
déplacer. Non, mais là, je suis là.
Ça va rien du tout.
Les vainqueurs, l'Olympiakos, ils sont contents.
Ouais, voilà, même la Coupe des Confédérations, ça sert à quoi, la Coupe des Confédérations? C'est une blague aussi, c'est pareil.
Bah, elle existe plus, celle-là, maintenant.
Ça servait à quoi? Mais bien sûr, au bout d'un moment, ils s'en sont rendus compte, ça sert à quoi?
Non, le Mondial des clubs qui arrive.
Voilà, le Mondial des clubs, super.
Par contre, là où je te rejoins, Duga, et qu'on a préparé l'émission, Jean-Louis, on en a parlé, il y a des choses. En effet, la Nation League, la Ligue des Nations, on a construit l'émission ce matin, oui, exactement, c'est construit, désolé. Et en construisant l'émission, donc, en effet, moi je suis contre la Ligue des Nations, on y comprend.
On demande jamais l'avis aux joueurs. Est-ce que tu vois des joueurs importants s'exprimer et dire oui, on est d'accord, on demande l'avis aux joueurs.
Oui, mais je pense que les joueurs, du gars, pour en parler encore avec certains aujourd'hui, ils te disent, la Coupe du Monde et l'Euro, c'est pas problématique. Qu'ils aient ouvert à d'autres pays, qu'on découvre que ça soit encore plus de pays. Là, c'est la troisième édition à l'Euro avec 24 équipes. Ça nous permet en effet de voir par moment des surprises et ça rafraîchit un peu de voir des belles histoires. À l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est les grandes nations qui gagnent de toute façon. Et que ça soit aujourd'hui ou il y a 20 ans, c'est comme ça. Oui,
tu le sens pas, Jérôme, véritablement, sincèrement. Là, on rigole pas. Tu sens pas le désintérêt de plus en plus du public, des gens pour entre les matchs qui sont diffusés. Alors, t'as une partie sur ETF, une partie sur M6, la partie totale sur Bein. Les gens sont plus au courant de rien. Tu sais plus, ils se désintéressent. En plus, pendant c'est des périodes de vacances, les gens se désintéressent de plus en plus de ces compétitions. C'est moi, c'est ça que je trouve.
Je ne sens pas autour de toi. Non, mais là-dessus, t'as raison. Et c'est pour ça que j'aurais pu attaquer comme défendre en faisant l'émission. Quand j'ai vu du gars que t'attaquais, j'aurais pu moi les attaquer là-dessus aussi parce que l'attractivité que tu pouvais avoir au début d'un euro. Moi, en 2004, on parle de 2004, nous, on a commencé par un France-Angleterre. Ah, le France-Angleterre, c'était fantastique. Tout le monde en parlait. Et ça faisait 3 semaines que tout le monde attendait ce match contre l'Angleterre. Là,
et
c'est
puis
vrai.
Tu te disais quoi? Tu te disais, si tu perds le premier match, t'es mal. Là, si tu perds le premier match, tu rigoles.
Tu peux te refaire. Après, il y a la jurisprudence là-dessus d'avoir, franchement, vibré en 2016, peut-être parce que c'était en France et que la France a été loin et a été jusqu'en finale. En 2021, en effet, j'ai pas du tout aimé le fait. Alors, est-ce que c'était parce qu'il y avait 24 équipes et qu'on a vu des matchs très moyens, ou le fait aussi que l'édition, elle était quand même dans plusieurs pays parce qu'ils fêtaient les 100 ans de l'euro, c'est ça, hein, je crois, il y a 4 ans. Là, ça a été problématique parce que t'avais du mal à t'identifier à un pays comme c'est le cas sur toutes les grandes compétitions. Là, je pars du principe que en Allemagne, un pays de football, ils sont heureux de recevoir l'euro. Je pense qu'on va se régaler, même si sur les premiers tours il y a des affiches. Bah, ça nous fait pas sauter au plafond, mais c'est comme ça.
Ouais, moi, je pense que ça va être top.
Ah.
Je pense que l'euro en Allemagne, il peut être très bien. Après, je suis d'accord que le projet principal de l'UEFA pour l'euro à 24, c'était surtout d'augmenter ses ressources, particulier sur les droits de diffusion, sur les recettes aussi de la billetterie et du sponsoring. Ça, c'est vrai que tout tourne autour des finances. Mais moi, j'ai envie plutôt de retenir un argument majeur en faveur du fait qu'on a la possibilité d'accueillir des petites nations qui vont conférer quelques diversités, l'ouvrir à un autre football. football. C'est aussi le principe de l'élargissement du football d'Europe. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs moins intéressants sur les premiers tours, mais ça nous permet de découvrir aussi d'autres nations. Mais après, sur les tours d'après, on aura des matchs beaucoup plus intéressants.
Bah oui.
Donc, j'espère. Je suis assez partagée, mais je suis aussi et j'aime aussi. J'ai cette curiosité de pouvoir découvrir d'autres footballs. Peut-être moins performant, mais voilà, ça permet à d'autres joueurs aussi d'avoir la chance à des joueurs talentueux, parce que par exemple avec la Géorgie, on a quand même de super c'est joueurs vrai. Qui vont y bah, participer.
Vibré,
donc ça nous permet de les voir aussi sur une compétition ici, internationale plutôt que de les voir tout le temps en club. Donc voilà, c'est de s'ouvrir à un autre football. Mais c'est vrai que sur les premiers matchs,
Louisa,
des matchs très
argument.
Ennuyeux.
C'est le seul qui est vraiment valable. C'est vrai qu'il y a par exemple, avec la Géorgie, il y a des bons joueurs que tu as envie de voir se frotter au meilleur. Mais c'est le seul véritable argument. Tout le reste, c'est
le seul en termes de jeu.
Voilà.
Après, merci, tout Louisa. Ce qui tourne autour, c'est autre chose.
Merci Louisa de m'avoir fait gagner.
Jérôme.
Bravo.
Bravo Jérôme.
Attention, édition spéciale.
Ah bon?
Non, on n'a même pas un petit jingle parce qu'il y a un moment important. Restez avec nous à 19h. Quelqu'un a répondu directement à Jérôme Rotten. Tu l'as incriminé ces derniers jours. En conférence de presse.
Pas mon ex-femme, quand même.
Bah non, rendez-vous à 19h pour
Je te calme tout de suite, ça sert à rien que t'ailles plus loin, j'ai plus rien, je peux plus te donner.
Rendez-vous à 19h.
Tu m'as tout pris.
Pour comprendre. En attendant, dans une seconde, le casar enchaîné, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h45 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue l'émission, on finit la première heure avec le moment de Julien Cazard. Et après 19h, oui, l'euro symbolique, notre grande opération de la semaine, en plein milieu de semaine, l'euro 2000. Avec Christophe Dugarry, ça tombe bien, il est là, il nous racontera tout sur cet euro 2000. On est aussi avec Louisa Nessib et avec Jean-Louis Tour.
Plus le règlement de compte avec toi, Jérôme, d'un acteur du foot.
Ah bon?
Et l'expérience RMC
foot, pour être flippé.
À France, Pays-Bas, c'est toujours pas tombé.
Non.
Le cocorico n'est toujours pas tombé. Dès qu'il tombe, vous envoyez euro 732-16 et vous allez assister à France, Pays-Bas.
C'est Rotten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça va les copains, ça va les copines. Hein, puisque.
Salut.
Ça va, salut. Ça va très bien. Voilà. Votre opération euro symbolique, c'est pas sur les droits TV. C'est pas parce que ça coûte. Ok, d'accord. Non, je voulais être sûr parce que j'étais pas sur le truc. Bonsoir à toutes et à tous. Où sommes
les cadeaux de Jérôme depuis le début de Rotten sans flamme.
Oh, là, il lance un balance avant les vacances. Tiens,
c'est quoi
le tir gratuit. Là, t'écoutes pas. Je vais te dire, Jérôme, heureusement que t'écoutes pas ce que dit Jean-Louis. Sinon,
des cadeaux. Pourquoi il faut que je fasse un cadeau
à toute l'équipe de Rotten sans flamme.
Oui, d'accord.
Exactement. Ouais.
En tout cas, Ruquier, lui, il en fait. Ruquier, c'est un mec super. Il invite les gens pendant une semaine en vacances en Grèce, au Maroc et tout.
Et il part pas, lui, en vacances déjà. Qu'est-ce que vous qu'il invite
Ah, si, oui, on nous invite à Châtenay-Malabry ou à Ville d'Avray, tu sais, dans la maison de campagne de ses beaux-parents. Bon, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et l'Autriche n'a toujours pas de blessés dans la liste des 26. Il reste encore quelques jours.
Alaba avant.
Oui, c'est vrai. Il y avait quand même Alaba. Oui, ça compte un peu, c'est le meilleur. Mais bon, il reste quand même du Danso, du Sabitzer, tu vois. Bon. Alors après, il reste quelques jours encore pour qu'on apprenne une entorse, une luxation, une fracture, une pubalgie, un rhume, des foins, une chaude pisse. Mais en attendant, 5 jours, c'est peu. Et c'est beaucoup à la fois, on sait, avec Dédé. Attends, les prochains adversaires des Bleus, s'il y a les Pays-Bas, qui viennent de perdre donc sur blessure De Jong et Kop Meiners.
La chasse, il a la chasse.
Et la Pologne a perdu Milik et Lewandowski.
La chasse, il a la chasse.
Donc, pour l'instant, tout se passe exactement comme prévu. La prépa est nickel. C'est ça, la prépa. C'est pas des entraînements, les autres, j'aime un peu de la prépa. Hop! On observe ce qui se passe en face. Aujourd'hui, 12 juin, c'est l'anniversaire de Massian Diabaté. Alors, qui joue où, Massian Diabaté? Jérôme?
Moi, je sais pas.
Une idée. Ok. Du gars, il joue où, Massian Diabaté?
Je sais pas.
Et ben voilà. Ils savent pas. Ah, Louisa, peut-être? Louisa?
Non plus, je sais pas.
Et voilà, et vous dites rien. Évidemment, il joue nulle part, c'est un historien. Il est historien et écrivain malien. Mais on est sur RMC. On dit jamais, je sais pas. On tente une réponse. On a rien à foutre d'avoir la vraie réponse. Depuis quand?
Tout en effet, ton ballon parce qu'on n'a rien dit.
Ah non, c'est ça, mon effet.
Parce qu'on est honnête, c'est fou.
Mais non, mais parce que la fierté d'RMC, c'est de dire un truc, même quand on sait pas. Parce que, est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que vous dites un truc, c'est parce que vous savez? Vous en êtes vraiment sûr de ça?
ça sur RMC.
Mais non, RMC, on connaît pas un sujet, on en a aucune idée, on n'a pas les tenants, les aboutissants, mais on en débat pendant des heures.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Voilà, oh, c'est ça,
dans,
RMC.
Pas que dans Estelle Midi. Là, t'es pas.
Pas que, non, pas que. C'est le principe de cette radio. Et depuis, tu imagines là, les gens, ils aident sur RMC, ils entendent quatre personnes dire je sais pas une question. T'imagines l'angoisse. Le mec, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Mon système RDS de la voiture a déconné.
Non, le vrai problème, c'est que nous, on a trois anciens joueurs ou joueuses qui parlent de leur sport.
Oui, oui.
On fait un peu le métier.
Alors, attention, c'est vrai qu'ils parlent pas de sujet. On les force jamais à parler d'un truc qu'ils aiment pas, nous. Bah, sauf que c'est pas vrai. Et parfois, on parle de foot féminin. Personne regarde le foot féminin. Même Louisa, la pauvre.
Mais si, moi, je regarde le foot féminin.
Oh, bien sûr.
L'autre fois, tu savais pas qui avait marqué.
Tu savais pas qui avait marqué.
Non, je ne savais. C'est vrai. Mais pourtant, j'avais regardé le match. Mais pour être très honnête, j'avais préféré la perf des Anglaises. Voilà.
Ah ouais. Ben voilà, ça c'est le patriotisme à la française, bravo.
Louisa, j'ai peur que ça te poursuive quelques semaines, cette histoire.
Entre autres, hein.
Oh, c'est pas grave.
Je rappelle qu'il y a un casard noir qui va peut-être tomber pour Louisa. Voilà, donc oui, alors, dernière chose, le 12 juin, c'est aussi, alors rien à voir, hein, on parlait du débarquement il y a peu, hein, ouais. Débarquement en Normandie, c'est pas l'arrivée de Jérôme Rotten de l'INF Clairefontaine à Caen, c'est autre chose.
Non, je te confirme.
Et il se trouve que le 12 juin, c'est la date de naissance d'Anne Frank, la petite fille qui a vécu l'enfermement dans des combles pendant des mois pour échapper aux nazis. Et alors, c'était pas aussi atroce que ce qu'a vécu Kylian Mbappé, car rappelons-le,
lui était malheureux.
Kylian, qu'on appelle aujourd'hui Natacha Campus au Paris Saint-Germain, rien n'est comparable à ce qu'il a vécu et on ne souhaite encore une fois à personne de vivre ce qu'il a vécu. Moi, je propose que sur les prochains matchs, les joueurs aient un patch sur le. Tu vois, et là, tout le monde le mettra parce que tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'il a vécu, c'est insoutenable à des sommaires. J'ai du mal à en mettre. Nous sommes mercredi et c'est la troisième soirée de remise des casardins.
RMC, Rotten sans flamme, les Casards d'or.
Et oui, on est. Faut jamais faire l'économie d'un moment d'autolipette. Voilà, donc c'est important. Donc les Casards d'or.
Quelle est la catégorie?
Alors d'abord, il nous a été demandé hier.
Ah oui.
De repasser
l'Alzheimer
de l'année d'avant,
oui.
Qui était sublime parce que c'est peut-être un des meilleurs et sera dur à détrôner. c'est celui de Gilbert avec les voitures des joueurs. Écoutez,
j'ai reçu une étude sur les footballeurs et leurs voitures. C'est-à-dire que par exemple, les gardiens de but majoritairement, ils veulent conduire des SUV, des gros SUV. Alors que les attaquants, ils veulent de la voiture de sport.
La voiture de course.
Ils veulent de la Ferrari.
Bien sûr.
C'est fou quand même.
Ça m'étonne pas, je sais pas pourquoi.
Et les gardiens, à ton avis?
C'est d'une violence.
C'est dingue.
Non, parce que
c'est dingue.
Quand à un moment, si un autre parle, il a pas écouté, peut arriver. Le mec, il vient de te faire une démonstration sur les SUV. C'est fabuleux.
Et les attaquants et les gardiens.
Et les gardiens, à ton avis.
Bah, tu viens de le dire, non?
Ah bon?
Il est en bout de course. Hein.
Non, pas du tout. On est tous en pleine forme, je vous le dis.
Il a quand même fait un doublé, hein, parce que cette année, c'est lui encore.
Ah, c'est encore le nommé.
Il est un bâtard.
Là, on va faire le casard d'or de l'enflammade. Il y en a eu des très belles. Il y en a eu des très belles. Alors, tu vois, on parlait de foot féminin. Quand tu commandes du foot féminin et que t'es une ancienne joueuse ou une commentatrice, peut-être que tu t'emballes. Et quand on monte, ça fait pas pareil que dans le football masculin.
Eugénie Le Sommer. Oh, c'est magnifique!
C'est vachement bien. C'est un peu sexiste là, ce que tu dis.
C'est un peu
sexiste.
Ah oui.
Ah oui, il l'a su. Il s'y attendait pas. Et bien sûr que c'est absolument sexiste. On est sur RMC.
C'était qui ça?
Je le rappelle, hein.
C'était qui là?
Je sais pas, mais très bien.
Je sais pas.
C'est encore plus sexiste.
Ouais, ça c'est.
Un homme t'aurait donné son nom, etc. Là, tu sais pas.
C'est vrai que là, t'as pas.
Moi, c'est à part Biggerstadt.
Ah d'ailleurs, c'est lui le champion des champions de l'enflammade.
Le champion des champions de l'enflammade. Alors lui,
on pourrait l'écouter aussi.
C'est le Sergueï Boubka, c'est le Duplantis.
Ah, c'est lui.
Est-ce qu'on peut se le réécouter pour la fin? On verra.
Ouais, à la fin.
Lui, c'est soit 7 mètres, toi, t'as raison.
Sinon, en quatrième position, il y a évidemment celui qui a mis quand même la barre assez haut en début de saison, Simon Dutin.
Ah oui.
Après, il parlait d'un grand joueur.
tu vois. Je suis sûr qu'un Del Castillo.
Brassier aussi, tous ces gars-là, moi, pour moi, ça, ils sont aussi.
Del Castillo, tu le mets n'importe où, dans n'importe quel club d'Europe, il ferait pas ridicule, il serait capable de jouer n'importe lequel.
Ah ouais. Qui ça, tu dis?
Del Castillo.
Qui c'est qui a dit ça, c'est Simon Dutin, génération after, l'embrasse, depuis il a été viré, je pense que Oussef se dit j'ai raté un moment
j'étais sur Del Castillo, tu parlais de qui, toi?
Walid, je crois.
C'est Walid.
Non mais il est, enfin il est allé plus loin. Peut-être on va l'entendre après, non?
Non, je crois.
Mais il est allé plus loin. Il a dit qu'il serait titulaire à la place de Perrato aussi. Ah, oui.
Non, ça c'était dans l'Open Space.
Ah oui, oui.
Il a pas dit à l'antenne. Il était revenu sur ça. Il a mis une autre.
Mais il est de sa famille, Del Castillo.
Il le voyait en bleu. Il m'avait dit. Après, il m'avait dit Del Castillo, tu le mets à la place de Bernardo Silva à City. Tu vois pas la diff.
Oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est après? On n'a pas la preuve qu'il a tort.
Bravo Simon, troisième position.
Non mais c'est des gens comme ça qu'il faut dans le foot, des nouvelles idées, tu vois, ils me sont inventés.
Mais il a des convictions.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Après, il faut qu'on crée du débat. Hein. Mais il a ses convictions, c'est tout.
Oui.
La terre est plate, tout ça. Et on a Gautreau aussi, Gautreau qui a été
Florent
pas mal.
Gautreau.
Flo Gautreau, ouais, ouais. Flo Gautreau. Ouais. Très bien sur Guardiola. Très très bien.
Un formidable manieur de langue de bois pour ne pas entrer dans ces débats-là. Toutes les fameuses conférences de coach qu'on a entendues récemment, depuis Guardiola jusqu'à Le Bris en France. I believe I can
fly. Qu'est-ce qui se passe avec Le Bris? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il a quand même envoyé son équipe
dingue,
en Ligue 2.
C'est dingue.
Mais il est dans les mêmes phrases que Klopp, Guardiola, Bielsa, Mourinho.
Non, mais c'est les fameuses conférences de Guardiola, Le Bris.
Oh. Évidemment, celui qui a vraiment lancé la hype, Le Bris. C'est Thibaut Leplat.
Thibaut Leplat,
il a des coachs.
Ah ouais,
du gars qui s'est dit, mais qu'est-ce que c'est devenu RMC depuis que je suis parti? Il disait, c'était déjà chaud avec Luis Fernandez, mais alors là, on a.
Non.
Thibaut Leplat, il a des coachs fétiches. Et pour les joueurs, là, il a bon goût. Oui. Il est plus mesuré. Il est vraiment dans. Souvenez-vous de ça.
Il y a des joueurs qui sont sortis du placard. On n'attendait plus du tout à ce niveau, quoi. Même Melvin Barre, pour moi, c'est un des derniers prodiges du football contemporain.
Non mais vous les trouvez où là, ces artistes-là? C'est qui le DRH, le mec?
On parle de Melvin Barre, l'arrière gauche remplaçant de l'OGC Nice.
Il a dit un des derniers prodiges.
Alors, allez, une dernière avant.
Le vainqueur,
c'est aussi Thibaut Leplat. Hein. Écoute,
c'est l'histoire un peu du millionnaire qui s'achète une Lamborghini. Et là, la Lamborghini, c'est Le Bris.
Je veux juste, j'en ai un pour un dernier, rapide. Très rapide, c'est le bonus de c'est le casard d'or de la franche camaraderie qui est décerné à Louis Anessib. Un joueur qui a porté la moustache. On commence par toi, Jérôme.
Raymond Domenech,
c'est bon.
Christian Lopez,
c'est bon.
Louisa,
une fois.
J'en ai encore.
Louisa, deux fois.
Je sais pas. Sonia Bonpastor.
Bravo. Merci Julien, bravo Louisa.
C'est une des meilleures, celle-là.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Dans une seconde, l'euro symbolique de Christophe Dugarry. L'euro 2000 en détail avec la Dream Team et la réponse du clash terrible entre Jérôme et un président de Ligue 1.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.